Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique au micro, Idrissa Seydoudia, bonjour. Au Tchad, le parti du défunt président Idriss Déby Itno a réitéré mardi son soutien à la junte qui a pris le relais après sa mort, mais il a exigé une modification de la charte de transition pour interdire au premier ministre et aux membres du gouvernement de transition de se présenter à de futures élections. C'est ce qui ressort d'un communiqué signé par Mahamat Ben Bada, secrétaire général du MPS. Au Nigeria, le président Muhammadu Buhari a continué hier les discussions entamées la semaine dernière avec ses principaux chefs de la sécurité sur les violences qui secouent le pays. Pour sa part, l'armée a tenu à balayer catégoriquement toute probabilité d'un coup d'État. Dans un communiqué tard lundi soir, elle a exprimé son soutien à M. Buhari, un ancien général critiqué de toutes parts pour son incapacité à endiguer l'insécurité dans le pays le plus peuplé d'Afrique. En Algérie, la police a empêché des étudiants de manifester mardi à Alger pour la deuxième semaine consécutive, interpellant des dizaines de personnes avant qu'elles ne puissent commencer à défiler. Par ailleurs, la militante algérienne Amira Bouraoui a été condamnée mardi à 2 ans de prison ferme pour notamment offense à l'islam. Marius Mohonga nous donnera les détails. Une délégation de hauts responsables du ministère turc des Affaires étrangères entame ce mercredi des discussions au Caire sur un réchauffement des relations avec l'Égypte au niveau bilatéral et régional. Ces relations s'étaient fortement dégradées après le renversement en 2013 du président Mohamed Morsi, issu des frères musulmans et soutenu par la Turquie. Il y a aussi la Libye où les deux pays ont soutenu ces dernières années deux camps opposés dans le conflit. L'Inde, submergée par une flambée de la pandémie de COVID-19 qui asphyxie son système de santé, a franchi le cap des 20 millions de cas officiellement recensés. Sa banque centrale annonce 6,7 milliards de financements bon marché qui seront débloqués pour les fabricants de vaccins, les hôpitaux et entreprises du secteur de la santé. Appelé par l'OMS à la solidarité face à la pandémie, les chefs de la diplomatie des pays riches du G7 discutent ce mercredi à Londres des moyens d'assurer une distribution plus équitable des vaccins. À l'heure où les campagnes de vaccination en Europe ou aux États-Unis permettent une levée progressive des restrictions en place contre le coronavirus, les pays pauvres manquent encore cruellement de doses à injecter. Le système de partage avec les pays pauvres, COVAX, qui se fournit principalement en vaccin d'AstraZeneca, patine. Il n'a livré que 49 millions de doses dans 121 pays et territoires contre un objectif de 2 milliards en 2021. Le président américain Joe Biden a lancé mardi une nouvelle phase de la campagne de vaccination contre le COVID-19 aux États-Unis, campagne qui doit intégrer les adolescents et cibler les Américains plus réticents avec un nouvel objectif d'au moins une injection pour 70% des adultes d'ici la fête nationale du 4 juillet. Le premier ministre israélien Benjamin Netanyahou, jugé pour corruption dans une série d'affaires, a échoué mercredi dans ses tentatives de formation d'un gouvernement dans les délais prévus, ouvrant ainsi la voie à ses adversaires qui cherchent à le chasser du pouvoir. 4 mois après la suspension de son compte, l'ancien président américain Donald Trump va-t-il revenir sur Facebook? Le verdict du conseil de surveillance du géant des réseaux sociaux prévu pour ce mercredi est attendu comme un moment majeur de l'histoire des plateformes et de leur rôle politique. Le policier blanc Derek Chauvin, jugé coupable du meurtre de l'Africain-américain George Floyd, a demandé mardi l'annulation du verdict, accusant le jury d'avoir eu des comportements inappropriés. Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique, Washington DC. La suite de nos informations. La France doit transférer vers la Banque centrale ouest-africaine 5 milliards d'euros de réserves de change des États ouest-africains qui utilisent le franc CFA, conformément à la réforme de cette monnaie. Le point avec Michel Joseph.
La Banque de France est en train de transférer 5 milliards d'euros, a indiqué une source qui a requis l'anonymat. La Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest, dont le siège est à Dakar, a décliné tout commentaire sur cette affaire. La réforme du franc CFA prévoit que la BCAO n'est plus tenue de déposer la moitié de ses réserves de change auprès de la Banque de France. La Banque centrale ouest-africaine sera ainsi libre de placer ses avoirs dans les actifs de son choix, avait expliqué à l'époque la présidence française. La réforme prévoyait aussi le changement de nom du franc CFA qui doit devenir l'ECO et le retrait de la France des instances de gouvernance de l'UMOA. Le franc CFA est la monnaie commune à 8 pays de l'Union monétaire ouest-africaine et à 6 pays de la CEMAC, la communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale. Cette réforme du franc CFA, qui ne concerne pour l'heure que la zone UMOA, a été annoncé par les présidents français Emmanuel Macron et l'ivoirien Alassane Ouattara en décembre 2019 à Abidjan.
En Algérie, la militante Amira Barraoui a été condamnée hier à 2 ans de prison ferme pour offense à l'islam et pour atteinte à la personne du président de la République. Le point avec Marius Muhunga.
2 ans de prison ferme pour offense à l'islam et 2 autres pour atteinte à la personne du président de la République. C'est le verdict qui est tombé mardi dans le procès d'Amira Barraoui, a rapporté le Comité national pour la libération des détenus sur sa page Facebook. Figure de l'opposition au régime Bouteflika, cette gynécologue de 45 ans s'est fait connaître en 2014 comme une des leaders du mouvement Barakat, ça suffit, qui s'opposait au 4e mandat de l'ex-président. Elle a par la suite pris part activement au mouvement des protestations populaires du Hirak, qui a poussé M. Bouteflika à la démission. Sa condamnation intervient dans un contexte d'intensification de la répression contre les militants du Hirak, des opposants et des journalistes à l'approche des élections convoquées par le pouvoir pour le mois prochain. Selon les CNLD, une ONG pour la libération des détenus en Algérie, plus de 70 personnes sont actuellement incarcérées, poursuivies pour des faits en rapport avec les Hirak ou les libertés individuelles.
La présidente de la Tanzanie, Samia Suluhu Hassan, est arrivée mardi au Kenya pour une visite de 2 jours destinée à resserrer les liens entre les 2 voisins est-africains après des années de querelles. Le point avec Rosine Munezero.
Votre visite nous a offert une opportunité de renouer nos relations, a déclaré dans un communiqué Uhuru Kenyatta, le président kenyan. Les 2 dirigeants ont annoncé la signature d'un accord pour le transport de gaz et de pétrole liquéfié depuis le port kenyan de Mombasa jusqu'à la capitale économique tanzanienne Dar es Salaam. Ils se sont également mis d'accord sur le fait que leur ministre de la Santé dresse un programme afin de faciliter le passage des frontières et les contrôles. La visite de Samia Suluhu Hassan, 5 ans après celle de M. Magufuli, marque une rupture avec le style de son prédécesseur. Madame Hassan doit s'adresser aujourd'hui au Parlement kenyan. Autrefois proche alliée du Kenya au sein de la communauté d'Afrique de l'Est, la Tanzanie s'est éloignée ces dernières années de ce bloc sous la présidence de John Magufuli, une période où les accusations de pratiques commerciales déloyales se multipliaient entre les 2 pays.
La Minute Echo, John Linnan.
MTN Nigeria, filiale du groupe sud-africain des télécoms, annonce que son chiffre d'affaires s'est établi à un peu plus $1 milliard à la fin mars 2021 contre 875 millions de dollars à la même période de l'année écoulée, soit une augmentation de 17%. MTN détient la plus grande part de marché de l'abonnement Internet au Nigeria avec environ 42%. Ici aux États-Unis, Wall Street a fini globalement en baisse ce mardi, plombé par le repli des valeurs technologiques sensibles aux craintes qu'une surchauffe de l'économie américaine ne conduisent à une hausse des taux d'intérêt. L'ancienne patronne de la Réserve fédérale et actuelle secrétaire au Trésor, Janet Yellen, a en effet attiré l'attention des investisseurs hier en affirmant qu'il faudra peut-être augmenter un peu les taux d'intérêt pour que l'économie ne surchauffe pas. Une majorité d'actionnaires de General Electric a voté mardi lors de l'Assemblée générale annuelle contre les propositions de rémunération des principaux dirigeants du groupe, dont celle de son directeur général, Larry Culp. Arrivé à la tête de l'entreprise en 2018, M. Culp a empoché 78 millions de dollars au total en 2020, principalement sous forme d'attribution d'actions. Face à la pandémie, il a renoncé à l'essentiel de son salaire et à son bonus. Mais son contrat a été valorisé en fin 2020 à plus de 100 millions de dollars.
Merci John, et maintenant les sports avec Yacouba Ouédraogo.
Bonjour à tous. La Confédération africaine de football envisage de repousser les deux premières journées des qualifications pour le Mondial 2022 de juin à septembre car de nombreux stades ne sont pas homologués. Le comité d'urgence de la CAF a validé lundi la décision. Nous attendons la validation du comité exécutif le 15 mai, explique un président de fédération réuni à Abidjan, Côte d'Ivoire, où se trouvait également le président de la FIFA, Gianni Infantino. Le comité d'urgence de la CAF a disqualifié des stades dans 22 des 54 pays membres de la Confédération. Parmi ces pays, le Mali, le Burkina Faso, le Sénégal finaliste de la CAN 2019. Depuis Dakar au Sénégal, justement, Amdine Sy, notre consultant sportif, nous explique pourquoi les Lions de la Teranga se retrouvent sans stade.
Au Sénégal, on n'avait que deux stades qui pouvaient accueillir les compétitions continentales et le stade Léopold Sédar Senghor a été fermé depuis plus de deux ans. Il n'y avait que le stade Ladior et ce stade a été homologué provisoirement par les responsables de la CAF, mais malheureusement, les responsables de la FIFA ne l'ont pas homologué. Donc le Sénégal sera obligé d'aller jouer à l'extérieur, ce qui constitue une honte pour un pays comme le Sénégal qui est non seulement classé première nation africaine, mais qui a été finaliste de la Coupe d'Afrique des Nations.
Amdine Sy, notre consultant sportif à Dakar. Justement, à la faveur de cette visite en Côte d'Ivoire, le président de la FIFA, Gianni Infantino, et le président de la CAF, Patrice Motsepe, ont appelé à l'unité dans le football après avoir rencontré Mariam Dao Gabala, présidente du comité de normalisation de la Fédération ivoirienne de football. Gianni Infantino.
On n'a pas de temps à perdre avec des divisions. Il faut unir, il faut bâtir, il faut construire, il faut refaire briller le football ivoirien, pas seulement grâce au talent de certains joueurs, mais grâce à toute sa structure et ce qu'elle représente pour l'Afrique et pour le monde.
Gianni Infantino, président de la FIFA. En Europe, l'international algérien Riyad Mahrez, déjà auteur d'un but à l'aller, a inscrit deux buts en demi-finale retour hier de la Ligue des Champions face au PSG, battu 2-0. L'ailier algérien envoie ainsi Manchester City à sa toute première finale de Ligue des Champions le 29 mai à Istanbul. Plus d'un demi-siècle après sa seule finale européenne, la Coupe des Coupes 1970 gagnée contre les Polonais de Górnik Zabrze, City atteint enfin le sommet visé par ses propriétaires émiratis aux commandes du club depuis 2008. Les Sky Blues connaîtront leurs adversaires de la finale ce soir à l'issue de la deuxième demi-finale au retour entre Chelsea du portier sénégalais Edouard Mendy et de l'ailier marocain Hakim Ziyech et le Real Madrid. Le match aller à Madrid s'est soldé par un score d'un but partout.
Merci Yacouba.
Vous êtes croyant, animiste ou athée? VOA Afrique vous accorde une tribune dans le dialogue des religions pour parler de la religion, de la vie et de la société. Vous ne penserez jamais tous de la même façon, vous ne verrez qu'une partie de la vérité et sous des angles différents. Vivre, c'est aussi un privilège, un cadeau à protéger. Retrouvez donc Eric Manirakiza tous les mercredis et dimanches à partir de 19h temps universel sur VOA Afrique et voaafrique.com. Sans oublier la page Facebook, laissez-nous vos numéros et partagez vos commentaires ou témoignages. Mais n'oubliez pas, tâchez de quitter cette terre en l'ayant rendu meilleur que vous l'avez trouvé. Bienvenue au Dialogue des Religions.
Le Monde Aujourd'hui, VOA Afrique, en votre compagnie Idrissa Sédoudia. Nous passons maintenant à nos dossiers du jour. Tchad, les réactions au nouveau gouvernement de transition nommé par la junte militaire continuent. L'exécutif est dominé par des représentants du MPS, Mouvement Patriotique du Salut, le parti du maréchal Déby. Saleh Kebzabo, opposant historique au président Déby, fait aussi son entrée dans l'exécutif de transition avec deux membres de son parti, tout comme Mahamat Ahmad Alabo du Parti pour les libertés et le développement, opposant historique aussi à Idriss Déby. Il a été nommé ministre de la Justice. Pour une analyse, Yacouba Ouedraogo, adjoint en Virginie, ici aux États-Unis, John Abaylaya, activiste tchadien et militant des droits de l'homme.
Ils ont trahi le peuple, ils ont trahi leur mission, surtout en ce moment crucial où le peuple tchadien est debout comme un seul homme, est en train de revendiquer sa liberté. Après 30 ans d'oppression, le peuple tchadien est en droit de revendiquer un changement politique. Nous nous sommes battus ensemble, croyant que ces opposants étaient du côté du peuple, mais là, ils nous ont trahis. Je pense que le peuple en acte, ça les engage, mais leur décision n'entrave à rien la détermination du peuple tchadien. La société civile est plus dynamique, ainsi que les partis politiques de l'opposition, ceux qui sont vraiment de l'opposition, la vraie, ainsi que la diaspora. Nous parlons tous un même langage. Nous voulons la mise sur pied immédiate d'une transition civile pour que cela puisse découler sur un dialogue inclusif avec tous les Tchadiens, de toutes les couches.
D'aucuns analysent l'entrée de ces partis politiques d'opposition dans le gouvernement du Conseil militaire de la transition comme des actes d'apaisement.
Pas du tout. Les gens peuvent s'engager dans la politique pour des raisons parfois inavouées, pour des raisons qui ne sont pas justement pour le salut du peuple. Je réitère encore que leur prise de position est une trahison vis-à-vis du peuple. Je pense que le gouvernement qui est mis sur place, c'est une insulte encore, une insulte contre le peuple tchadien. Les membres, c'est juste la majorité du système MPS. Donc ce n'est ni un gouvernement d'apaisement, c'est juste une manœuvre de pérenniser le même système qui a échoué pendant plus de 3 ans.
L'Union africaine a déclaré à travers son envoyé au Tchad qu'il appartient aux Tchadiens de résoudre leurs problèmes. Qu'est-ce que vous pensez de cela?
Personnellement, à mon niveau, j'ai été choqué par cette déclaration qui donne l'impression comme si le peuple tchadien ne s'est pas exprimé. En date du 27 avril, nous avons perdu plus d'une dizaine de jeunes qui ont perdu la vie comme ça parce qu'ils se sont exprimés sur ce coup d'État, la mise sur pied du CMT pendant cette élection, cette mascarade d'élection aussi. L'appel au boycott a été majoritairement suivi par le peuple tchadien. Donc le peuple tchadien s'exprime, fait plusieurs fois exprimer, il ne veut pas la pérennisation de ce système-là, médiocre. L'Union africaine, c'est la plus grande institution africaine qui doit nous aider à gérer cette crise en nous disant que rien que le droit. Et le droit, c'est d'insister à ce que nous puissions retourner à l'ordre constitutionnel. C'est qu'on doit passer immédiatement à une transition qui doit être dirigée par les civils. C'est ça la demande du peuple. Ils ont accompli leur mission. Nous attendons le verdict et la position du peuple tchadien est très claire. Tout autre arrangement, toute autre négociation ne prenne pas en considération la voix du peuple ne permettra pas la stabilité du Tchad.
John Abaylaya, activiste tchadien et militant des droits de l'homme, joint en Virginie.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Le sénateur américain Chris Coon, proche du président Joe Biden, est arrivé au Soudan en compagnie de son collègue Chris Van Hollen. La délégation du Congrès a prévu de rencontrer les autorités de la transition soudanaise pour évoquer la coopération entre Washington et Khartoum, mais aussi la tension suscitée par le barrage de la Grande Renaissance éthiopienne. Abdulrahman Dia a joint ici à Washington l'ambassadeur du Soudan aux États-Unis, Noureddine Sati.
Oui, financier, un appui politique, diplomatique, dans le domaine économique, dans le domaine des investissements. Et d'ailleurs, déjà, l'administration Biden nous a aidés à commencer l'annulation des dettes du Soudan. Le processus hippique qui est bien connu pour tous Et nous sommes reconnaissants à l'administration Biden d'avoir débloqué une somme considérable qui dépasse $1 milliard pour nous donner la possibilité de l'annulation des dettes de la Banque mondiale. Et le processus est en cours pour l'annulation des dettes de FMI et de la Banque de développement africaine.
Et qu'est-ce que vous attendez de cette délégation du Congrès concernant vos relations avec l'Éthiopie, les relations tendues notamment à cause du barrage sur le Nil Bleu que l'Éthiopie est en train de construire?
Nous attendons que les États-Unis jouent son rôle pour rapprocher, disons, le Soudan et l'Éthiopie et l'Égypte, pour leur donner la possibilité de s'entendre sur un règlement à l'amiable de la question de GERD, du barrage, et de conclure un accord contraignant aux trois parties concernant la gestion du barrage et la gestion, disons, à venir des eaux du Nil Bleu.
Et vous parliez un peu plus tôt de la coopération que vous attendez des États-Unis en termes d'investissement. Quelle garantie le gouvernement de transition a pour assurer une stabilité pour que justement les investissements privés américains puissent arriver en force au Soudan?
Oui, une garantie, c'est-à-dire il y a des réformes en cours que le gouvernement est en train de mettre en place. Nous avons hérité une situation quand même assez catastrophique en ce qui concerne la situation financière, économique et administrative et de gestion, de gouvernance du pays. Mais les réformes sont en cours pour donner garantie aux investisseurs des réformes dans le secteur bancaire, dans le secteur financier, dans le secteur économique, dans le secteur des investissements et de la gestion des affaires. Pour rassurer les investisseurs que quand ils viendront au Soudan, ils vont trouver, disons, un environnement propice qui garantirait leur investissement.
Noureddin Sati, ambassadeur du Soudan aux États-Unis.
Vous êtes à l'écoute de VOA Afrique.
L'Inde a étendu sa campagne de vaccination à tous les adultes, alors qu'elle subit une forte augmentation des cas de coronavirus. Mais la pénurie de vaccins dans le pays signifie que l'immunisation de la majorité de ses 1,4 milliard d'habitants est encore un objectif lointain. Reportage d'Anjana Pasricha à Bombay, relaté par Nathalie Barge.
C'est un véritable coup dur pour l'Inde qui subit une pénurie de vaccins au moment où elle étend sa campagne d'immunisation à tous les adultes. Sahil Kapoor, un habitant de New Delhi.
La situation est extrêmement lugubre. Je veux dire bien sûr qu'il n'y a aucun mot qui puisse expliquer que la situation soit aussi sombre. Le système est au bord de l'effondrement et c'est la raison pour laquelle nous essayons de nous faire vacciner le plus tôt possible.
Certains États disent qu'ils ne peuvent pas couvrir la tranche d'âge des 18 ans et plus. Ils refusent même les personnes âgées car les stocks de vaccins sont insuffisants. L'Inde est le premier producteur mondial de vaccins, mais les quelques 70 millions de doses produites par mois ne suffisent pas à répondre à ses besoins. Srinath Reddy, président de la Fondation de la Santé publique d'Inde.
Même si vous prenez le groupe d'âge 18-44 ans, qui est le nouveau venu dans le programme, nous parlons de 595 millions de personnes, donc nous parlons de 1,2 milliard de doses, n'est-ce pas? Car tout le monde a besoin de deux doses de vaccin. Donc c'est une tâche énorme et nos stocks sont actuellement loin d'être à la hauteur.
Le gouvernement a intensifié ses efforts pour obtenir des vaccins de l'étranger. Des doses de Sputnik V sont arrivées de Russie. Des efforts sont déployés pour accélérer la fabrication nationale, mais cela pourrait prendre des mois pour combler les lacunes. Des experts affirment que l'Inde n'a pas stocké suffisamment de vaccins car elle a prématurément déclaré victoire contre la pandémie. Elle a envoyé environ 65 millions de doses à d'autres pays. Par conséquent, la grande majorité de la population en Inde était sans protection lors de la deuxième vague de la pandémie, avec seulement 2% de personnes inoculées et 10% ayant reçu une dose. La peur est perceptible dans les villes comme New Delhi, où les hôpitaux et les crématoriums sont débordés. Piyush Kumar, un habitant de la capitale.
J'ai supprimé les applications de médias sociaux pendant une semaine parce que je ne pouvais plus supporter. Et chaque fois que vous ouvrez Twitter, c'est sans arrêt. Mais j'y suis finalement retourné car beaucoup de gens cherchent de l'aide sur cette plateforme. Et si je peux aider, je dois être disponible. Les temps sont très inquiétants.
Une inquiétude croissante dans le pays qui mène une bataille permanente pour les lits d'hôpitaux, les médicaments et l'oxygène, tout en visant à vacciner sa population de plus d'un milliard d'habitants.
VOA Afrique, une fenêtre sur le monde.
Le deuxième ouvrage de Michael Joron, jeune écrivain de 34 ans de La Réunion, intitulé « Anecdotes illustrées du mysticisme réunionnais », Mémoire endémique de la Réunion des esprits, a fait son entrée à la prestigieuse bibliothèque du Congrès américain. Cette institution culturelle fédérale, également la bibliothèque la plus grande du monde, renferme des œuvres très rares. Pour Michael Joron, l'inscription de son livre à ce patrimoine culturel mondial est probablement due à la rareté du sujet du mysticisme vu sous un angle culturel qu'il y évoque. Il en parle au micro de Nanit Talani.
Ce livre parle beaucoup de l'ésotérisme et du mysticisme qui règne sur notre île. On dit souvent dans la culture populaire que notre territoire afro-asiatique, parce que la Réunion c'est une terre africaine, mais aussi un croisement entre l'Asie et l'Afrique, notre territoire afro-asiatique est régi par le monde des esprits. Et donc la population a pris pour coutume d'effectuer différents rituels avant chaque moment important, et la population est ancrée dans une culture, on va dire, spirituelle très très forte, et notre identité a été construite avec le mysticisme, avec de ce qu'on pourrait appeler entre guillemets des légendes, mais aussi des faits qui se sont déroulés, et on voue souvent nos journées aux esprits, qu'ils soient naturels ou ancestraux, mais aussi on honore la nature.
Et que représente pour vous le fait que votre ouvrage se trouve actuellement à la bibliothèque du Congrès américain ?
C'est très important parce que le paradigme réunionnais a quelque chose à apporter à l'universalité du monde. Le paradigme réunionnais, c'est aussi un peuple multiethnique venu d'un peu partout, mais aussi un territoire d'Afrique qui a su, malgré un passé très difficile qui est dû à l'esclavage, à la ségrégation aussi d'après l'abolition de 1848, et aussi malgré le colorisme qui a longtemps régné chez nous, racial, malgré tout cela, la Réunion a su se construire dans son identité au travers d'une langue commune, la langue réunionnaise, mais aussi, quelles que soient les faciès et la couleur de peau, à travers une identité marquante dont le mysticisme fait partie. Donc pour nous, c'est important. Demain, un sénateur américain au Congrès qui tombe sur ce livre, peut-être que cela peut influencer le monde. Donc qu'il soit au Congrès américain, c'est très important, parce que nous sommes tous des êtres humains et on s'influence l'un l'autre, et que le paradigme réunionnais puisse avoir sa place au sein du Congrès américain, c'est dire au monde on existe et on partage avec vous ce que nous avons compris, une forme de sagesse malgré notre histoire douloureuse.
Qu'est-ce qui a fait que votre livre soit sélectionné pour être dans la bibliothèque du Congrès américain ?
Je pense que ce livre, dans sa rareté, c'est-à-dire on parle réellement d'un pan de l'humanité que l'on a rarement étudié, c'est-à-dire le mysticisme et qui plus est réunionnais. On a étudié le mysticisme, mais pas spécifiquement celui de l'Afrique, forcément. Donc, il est normal que le Congrès américain, à un moment, s'intéresse, parce que dans sa recherche de réunir les livres les plus pertinents sur différents sujets, ils ont décidé de prendre le mien, et c'est un honneur.
Michael Joron, jeune écrivain de La Réunion. Voilà, c'est tout pour cette édition matinale du Monde aujourd'hui, VOA Afrique. Merci de l'avoir suivi. Vous étiez en compagnie d'Idrissa Sebulia et de Michel Joseph à la mise en onde. Rendez-vous sur notre site internet voaafrique.com et nos pages Facebook, Twitter et Instagram pour un suivi de l'actualité 24 heures sur 24. Bonne journée.